rappant mes textes dans le vide. Mais je vois pas l'endroit où hip hop rime avec avenir solide. Les incertitudes se cachent derrière les embûches. Tu t'excites comme une abeille dans sa ruche et tu te rappelles qu'il faut remplir la cruche.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 11 janvier 2017, Christophe Rollin au micro, émission numéro 118, Gérald est là, ainsi que Sébastien Derain, déjà venu auditeur. Oui, oui, je vous renvoie à l'émission 63, c'était quand? Écoutez, je retrouve la date et je vous l'indique, c'était je crois il y a deux ans, en 2015. Sébastien Derain est présent pour parler d'un spectacle très intéressant, Monsieur Croche, impression d'outre-tombe, donné au théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé hier, mardi 10 janvier, c'est donné jusqu'au lundi 16 janvier, les horaires 19h30 en soirée, 16h le dimanche. Voilà, on va préciser tout ça pendant cette émission, comme d'habitude, jusqu'à 15h. Vous nous écoutez sur le 102.9 de la bande FM, ou bien vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison de le faire également, sur radiocanu.org. On commence avec de la musique. Nous allons entendre une jeune fillette. C'est une mélodie populaire, arrangement de Jordi Savall, extrait de la bande originale du film Tous les matins du monde d'Alain Corneau. C'est parti. C'était très beau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite céder la parole à Sébastien Derain. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Isa qui nous a rejoint.
Salut tout le monde.
Gérald, c'était ton choix ou c'était celui de Sébastien?
Alors, c'était mon choix pour la simple et bonne raison que cette jeune bergère, cette fillette, c'est ça, chanson populaire, inaugure un petit peu, c'est la deuxième chanson du spectacle. Et elle a un sens dans la scénographie, dans la dramaturgie de ce spectacle que j'ai vu hier soir au Théâtre de la Croix-Rousse. Un spectacle tout public. Qu'on peut voir dès l'âge de 7, voire 5 ans, quand on est très mélomane, jusqu'à évidemment 77 ans, qui dure une heure, qui est très dense, très très dense, très pédagogique. On va en reparler toute l'émission, puisque monsieur Sébastien Derain, qui nous fait le bonheur de revenir une deuxième fois, ouais. Je renvoie tout de suite à nos auditeurs à l'émission 63, s'ils veulent avoir des précisions.
Avril 2015, à mercredi, voilà, sur le 18 parcours, 25, on ne sait plus.
Exemplaire et passionnant autour du baroque.
Un claveciniste voilà. Qui est
et chef d'orchestre, parce qu'on le voit, hier je vais lui poser une question bientôt d'ailleurs, comment il fait pour à la fois jouer du clavecin et à la fois diriger l'ensemble, parce qu'il a souvent une des mains en l'air pour diriger en même temps, c'est intéressant ça. Bref,
Donc on a dit qu'on lui laissait la parole, mais en fait on l'a pas tout de suite.
Monsieur Croche,
on va le faire, on va le faire.
Pense au titre, c'était pour Monsieur Croche, on n'a même pas le dit le titre du spectacle.
Si, je l'annonçais.
Impression d'outre-tombe.
D'outre-tombe. Sébastien Desrains, vous êtes directeur musical de cet ensemble Les Nouveaux Caractères qui donne ce spectacle au théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé le mardi 10, c'est jusqu'à. Je viens d'indiquer lundi sur le site, je crois avoir mis dimanche.
C'est je pense que c'est dimanche sur le site et il nous reste.
Et la petite brochure indique le 16 janvier.
Il nous reste des représentations scolaires lundi et mardi.
D'accord. Donc, mais alors même jusqu'au 17 voilà. janvier. Des horaires un peu plus tôt, hein, Gérald.
19h30.
19h30
oui,
en soirée.
Oui.
Et le dimanche, je crois que c'est à
15h.
15h.
Je pense que c'est une attention qui a été faite par rapport au jeune public potentiel qui vient voir ce spectacle.
Il faut qu'ils aient le temps de goûter le dimanche.
Oui,
donc, Sébastien, vous étiez déjà présenté comme claveciniste notamment. Vous aviez déjà brossé un peu votre parcours dans cette émission d'il y a, ça va faire deux ans
déjà.
En avril.
Oui.
Et oui, 2 ans. C'était au sujet du spectacle Didon est né avec toujours Caroline Mutel. D'ailleurs,
absolument.
Il faudra en dire quelques mots. Et puis, cette dessinatrice, Florence Dupré-Latour, qu'on avait essayé d'avoir à l'époque, ça avait été un peu compliqué. Donc, je propose aux auditeurs, puis à vous-même, de ne pas revenir sur votre parcours, mais peut-être plutôt d'évoquer ces nouveaux caractères. Quel est cet ensemble? D'où le nom vient-il? Depuis quand existe-t-il également?
Les nouveaux caractères, ça fait 10 ans. Pas jour pour jour, mais disons 10 ans et deux mois que les statuts, donc le côté officiel de l'aventure, a été lancé à Lyon. Donc, même si on a quelques concerts en amont de 2006, c'est un ensemble quand même installé à Lyon et qui grandit à Lyon. Et on est assez content d'ailleurs de voir que de plus en plus on a des activités diverses, et cette année est un beau témoignage là de ce qu'on essaye de faire.
Vous êtes vous-même, vous dites des activités diverses, vous êtes vous-même à l'intérieur un peu divers, un peu varié, vous n'êtes pas tous musiciens, enfin
disons que voilà, l'ensemble a une petite spécificité qui est parfois difficile à installer, c'est-à-dire que oui, on fait du concert, du grand concert, d'oratorio, d'opéra traditionnel. Alors on a pu jouer à la Chapelle de la Trinité à Lyon, à Ambronay plus récemment, ou l'année prochaine on va jouer à l'Auditorium, par exemple un Messie de Handel, donc une grande forme, très, très sacrée, très... Oui, très traditionnel. Et puis, en même temps, à côté de ça, on essaye de lancer des aventures plus théâtrales, plus rigolotes, plus... Ouais, peut-être pédagogiques, c'est déjà un grand mot, hein, j'ai envie de dire, mais qui rendent accessible notre musique. Donc, d'abord, la musique baroque, c'est-à-dire 17e, 18e, français, anglais, italienne. Et puis de croiser ça avec des arts, d'autres arts. Alors ça a été Florence avec le dessin, ça a été des ombres, un magicien. Cette fois-ci, donc on essaie de mêler les jeunes arts numériques. Et puis toujours, on essaye de faire ce genre de croisement, parce qu'on pense que ça rend bien. Le côté facile, accessible de cette musique baroque. Souvent, moi je suis toujours étonné de voir que quand on discute avec le public nouveau, on dit « Ah mais on pensait que la musique baroque c'était compliqué, que c'était pas comme ça, là c'est vraiment... On aime bien, ça nous parle tout de suite, voilà. » C'est ça qu'on a toujours cette idée-là, un petit peu en tête, de rendre accessible.
Il faut saluer ici, hein, j'y reviens souvent, j'en ai parlé beaucoup à la radio plusieurs fois, la politique, j'ai envie de dire, du théâtre de la Croix-Rousse, qui est justement tournée vers un public très large, qui est exigeant, qui montre toujours des spectacles, qu'on a beaucoup chroniqué ici, et pour cause, parce qu'on essaie de faire un peu la même chose à la radio. Voilà, c'est souvent très réussi, c'est exigeant, et en même temps c'est tout public, et c'est du plaisir partagé, et de la culture.
Oui, c'est important, je crois. Hein,
Et ce spectacle a cette dimension-là, encore plus que les autres, à mon sens. Donc, j'aimerais préciser que...
Mais non, Gérald, avant d'évoquer plus précisément
les spectacles,
il faut quand même respecter le cahier des charges de l'émission, à savoir une sorte de portrait de l'invité pour commencer. Une portrait, en plus, Sébastien Desrains, on vous tient. Vous êtes, on peut le dire, une personnalité, une figure lyonnaise. Hein, on a reçu différents acteurs qui étaient de passage ici. Non, vous... Peut-être n'êtes-vous pas natif de Lyon, bon, on va quand même vous accepter, mais vous êtes basé à Lyon.
Pas si loin, ça devrait passer, je pense.
Allez-y, lâchez le. Quel est le
Chambéry.
Ça passe. Bon. Oui, je crois que vous aviez évoqué Aix-les-Bains,
oui.
Me semble-t-il.
Alors, pour le conservatoire.
Oui, pour le conservatoire, absolument. Donc, petit Chambéry, je suis une famille savoyarde. Mes études musicales, l'école, c'est à Chambéry, le conservatoire, c'est à Aix-les-Bains, et puis finalement, je commence par la flûte à bec au conservatoire. Avec une super prof d'ailleurs, dont j'ai un souvenir absolument
ému,
qui s'appelait Pierrette Autino. Et puis, rapidement, pour des histoires de famille, on change de côté, on part à Nantes. Donc, c'est le moment, en gros, où je passe de la flûte au clavecin. Alors, mon côté un petit peu, qui était un petit peu particulier à l'époque, parce que c'est moins vrai aujourd'hui, de longues années après, c'est que j'ai commencé le clavier directement par le clavecin, sans passer par le piano. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les conservatoires, notamment, je vois maintenant, j'ai un garçon moi-même qui est à l'école de musique de Villeurbanne, et au département de musique ancienne de Villeurbanne, on voit plein de petits commencer direct la viole de gambe, direct le clavecin, tout ça. Et c'est formidable, parce que, voilà, cette musique baroque qu'on dit être à la mode, pendant 20 ans, s'inscrit vraiment dans le paysage. Voilà.
C'est ce que vous dites sur la vidéo, je crois. Il y a un petit, je ne sais pas comment nommer ça, les teasers que fait l'excellent, tu ne l'as pas évoqué Gérard, l'excellent également site de la Croix-Rousse. Le lieu lui-même du théâtre est très bon, mais alors le site est très bien, on navigue, c'est très agréable. Et il y a une petite vidéo, 2 minutes je crois et quelques, avec Caroline Mutel, et quand vous prenez la parole, vous indiquez que pour vous, la musique baroque, certes, vous pourriez d'ailleurs en reparler, mais c'est plutôt une histoire d'instruments, de jouer les époques, enfin du moins
Alors,
je vous ai mal compris peut-être.
Je pense qu'on est bien d'accord, on est bien sur les mêmes ondes.
À la radio, ça tombe bien.
Voilà. Je mets toujours une réserve sur quand on nous présente les nouveaux caractères ensemble de musique baroque. Parce que le mot baroque inscrit un peu dans une période qui est fermée. Et en fait, ce qu'on a envie de faire, moi, je préfère dire ensemble sur instrument historique. Alors, ça fait pas grande différence, mais ça veut dire que quand, par exemple, comme un spectacle comme Monsieur Croche, on va aborder du répertoire plus tardif, c'est-à-dire de la musique de Debussy, on n'est plus dans la période baroque, mais néanmoins, on joue sur les instruments historiques. Il se trouve que si on jouait de la musique de Dutilleux, de Ligeti, on jouerait des instruments modernes, les mêmes instruments que vous voyez à l'orchestre de l'Opéra ou au National à Lyon. Pour la musique baroque, les instruments sont extrêmement différents, parce qu'une flûte moderne ne s'est pas faite en un jour. Et en fait, Claude Debussy, donc à la charnière 19e-20e, les instruments sont encore dans une phase d'évolution. Alors, il y a des choses très techniques et très rigolotes. Alors, je sais, quand on parle des instruments aux enfants, par exemple, on dit le violon et le violoncelle baroque jouent sur des cordes en boyaux, d'intestin, des boyaux purs. Alors, voilà, on est tout de suite catastrophé. Et aujourd'hui, on a tendance à entendre Claude Debussy sur des cordes en acier, des cordes en métal. Il se trouve que, oui, c'est possible, mais qu'en même temps, le boyau a perduré très très longtemps, et bien plus tard que ce qu'on croit et ce que le public professionnel musicien pratique en général. Debussy était encore sur boyau, a priori.
Les nouveaux caractères, hein, Gérald, je crois que tu l'as demandé tout à l'heure, c'était peut-être encore hors antenne. Le nom lui-même, vous l'avez dit, il...
Alors oui, alors ça commence à remonter. C'est toujours pas évident de trouver un nom. J'imagine que quand on se pose en termes de marque, c'est encore plus compliqué. Donc les nouveaux caractères, c'est une petite référence au caractère de La Bruyère, donc un ouvrage formidable de la fin du XVIIe.
C'est ça, oui, la publication.
Il y a les fables de La Fontaine et les caractères de La Bruyère. C'est une espèce de recueil de c'est pas des citations, mais d'observation de la société sous Louis XIV, avec des choses d'une... Enfin, c'est à la fois très drôle, à la fois désespérant de voir que l'homme général, dans ses travers, ne changera pas. Voilà, et c'est pertinent, c'est pertinent. Après, on aime bien le côté... Il y a beaucoup d'œuvres musicales qui portent le nom de caractère. Par exemple, les caractères de la danse, les caractères de la guerre, qui sont des ballets début 18e par des compositeurs comme Francoeur, Rebelle. Et puis, on aime bien aussi le côté un peu... qui donne un autre sens avec le mot en anglais. La personne, le personnage. Voilà.
Peut-être pour achever ce portrait que nous brossons des nouveaux caractères, il manque encore tout de même cette petite chose. Tout à l'heure, j'ai peut-être mal posé ma question. Je pensais, moi, en termes, vous êtes parti sur les activités, moi je pensais plutôt en termes de corps de métier. Les nouveaux caractères, c'est, je suppose, enfin, regroupe des personnes tout de même diverses, puisque Caroline Mutel est-elle musicienne?
Oui, oui, absolument, Caroline.
Pensais que c'était vraiment la mise en scène, moi, davantage.
Caroline est chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique.
Mais instrumentiste.
Alors, non, Caroline n'est pas instrumentiste. Elle est, Elle est donc chanteuse. Elle a été, il y a quelque temps, à la troupe de l'Opéra de Lyon. Mais ça commence à dater un petit peu. Et puis, elle a eu une carrière de soliste demandée dans les opéras en France. Notre travail au sein des Nouveaux Caractères, c'est d'abord fait par des collaborations au sein de concerts traditionnels. Et puis rapidement, Caroline disait, bon, le chant, on n'est pas éternel dans le chant. Les carrières s'arrêtent quand même. C'est un peu comme les danseurs. Un tout petit peu plus de répit que les danseurs, mais
les
pas
athlètes.
Tellement plus.
C'est ouais, vrai que la voix vieillit aussi.
Ben oui, et puis...
J'ai écouté Brigitte Fontaine, on s'en aperçoit.
Souvent plus, c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Mais du coup, voilà, il y avait toujours cette idée que Caroline voulait mettre en scène après sa vie de chanteuse. Et puis, voilà, la vie a fait que ça s'est bousculé. Qu'à un moment, en fait, avec le théâtre de la Renaissance, on a fait un Orfeo de Monteverdi.
Et était-ce déjà donc à l'époque Jean Lacornerie qui était
oui,
là,
absolument.
Jean Lacornerie qui est donc devenu depuis, ça va faire 4-5 ans, je crois, ouais. Directeur, ou davantage encore peut-être, directeur donc du théâtre de la Croix-Rousse. C'est peut-être pour ça qu'il y a à présent vraiment cet important aspect musical qui était
absolument
à l'époque de Philippe. Philippe Faure, voilà, effectivement. Donc, Caroline Mutel a basculé
Non, elle n'a pas basculé, elle a pris en parallèle...
L'Orfeo, vous disiez. Je vous
voilà, l'Orfeo de Monteverdi, où elle chantait le rôle de la musique, donc ce qui ouvre l'histoire de l'Orfeo, et a pris à sa charge le projet scénique. Voilà, ce qu'elle voulait faire, qu'elle prévoyait un peu plus tard. Voilà. Et depuis, ben, on a quelques spectacles jeune public où Caroline a mis en scène le Didon dont on avait parlé la dernière fois également. Et puis cette nouvelle réalisation donc, où Caroline est à la fois chanteuse et à la fois metteur en scène. Les Nouveaux Caractères sur ce spectacle, c'est un groupe de musique de chambre avec des gens très polyvalent, qui joue des instruments donc baroques et des instruments modernes. Il y a un hautbois, il y a une flûte, une clarinette, un violon et un violoncelle.
Y a-t-il des choristes aussi dans cet ensemble des Nouveaux Caractères ou...
Des choristes amateurs, c'est-à-dire oui. Les instrumentistes.
Ils sont tous un petit peu comédiens aussi. Hein.
D'accord.
Ils sont tous comédiens.
La polyvalence oui. qu'on vient d'évoquer.
Voilà.
On a fait le tour de ces Nouveaux Caractères, Gérald ? Oui, plus ou moins. Est-ce que...
Peut-être qu'on fera le tour en musique,
ah,
peut-être dans un moment, puisque alors,
il faut les
on
écouter.
A eu des cadeaux. Alors,
ah, bah alors.
Il y a les Nouveaux Caractères, qu'est-ce qu'on écoute ?
Qu'est-ce que nous écoutons ?
Ça, une chose là.
Oui. Nous avions déjà entendu les surprises de l'amour okay. dans cette émission d'avril 2015.
The Salon of Scylla and Glaucus, mon accent est déplorable en anglais.
Il est bien meilleur en italien, c'est ça Gérald ?
De Leclerc.
Oui, alors...
grand compositeur lyonnais.
Voilà. Voilà,
oui,
voilà.
Jean-Marie.
Donc Leclerc, c'est un disque de musique de chambre qu'on a réalisé au moment c'était en 2014 déjà en fait, on célébrait la mort de Rameau et en même temps on célébrait la mort de Leclerc et donc en tant que Lyonnais, ça me semblait difficile de faire l'impasse.
De rien faire.
Voilà. Et on a réalisé un enregistrement du seul opéra de Jean-Marie Leclerc, Scylla et Glaucus. Et en même temps, un petit pendant musique de chambre de l'œuvre de Jean-Marie Leclerc. C'est-à-dire, en général, des œuvres pour violon, pour cordes, et des œuvres de musique de chambre pour cordes. Voilà, je ne sais pas.
Donc, on ne connaît pas le disque, alors... ce que vous voulez. Pour les Lyonnais qui veulent s'intéresser à Jean-Marie Leclerc, il y a la petite fontaine derrière l'église Saint-Lizier avec la date de naissance et mort. Une jolie petite fontaine. Mais ne buvez pas l'eau, je ne crois pas qu'elle soit potable.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons écouter de ce Jean-Marie Leclerc enregistré par voilà. Les Nouveaux Caractères, dirigé là, par une. Sébastien Desrains. Et bien voilà, l'ouverture de ce disque. Et ensuite, ben, peut-être...
On va chanter parce que c'est un peu long. 5 minutes 36, on a trop de choses à dire.
Et alors après, nous serons bien prêts, hein, Gérald, à parler de ce spectacle. Revenons un instant dessus. Monsieur Croche,
ouverture 3.
Au théâtre de la Croix-Rousse, de ce mardi 10 janvier, c'est-à-dire hier, jusqu'au dimanche. Dimanche 15 pour le public, et puis les 16-17, ce sera pour des scolaires. Si vous souhaitez tricher, parents, ben, ayez des enfants, des bambins auprès de vous. Alors non, ça doit être scolaire par le biais des établissements, donc... Soyez accompagnateur, comme ça vous pourrez aller voir ces spectacles. Gérald, ouais, tu proposes autre chose.
Et on écoute l'ouverture en la majeur pour deux violons et basse continuo, ou clavecin, clavecin continuo, voilà. Donc grave, allegro.
En fait, c'est une version de musique de chambre de l'ouverture de l'opéra, Scylla et Glaucus.
Début 18e.
Cette ouverture continue, elle continue encore, mais on va en rester là. Si vous souhaitez en savoir davantage, auditeur, eh bien, mettez la main sur cet album. Gérald, tu as toutes les précisions.
Le salon CD de Scylla et Glaucus, voilà. Par l'ensemble, alors, les nouveaux caractères, oui, Sébastien Derain.
Celui-là n'existe que numériquement, en téléchargement.
Ah, eh bien, c'est encore plus pratique. Comme ça, on n'a même pas à sortir de chez soi pour se rendre chez un disque.
On peut trouver un Rameau, un Jean-Philippe Rameau, celui-là.
Alors oui, il y a un disque Rameau des musiciens de Monsieur Croche. C'était un projet chez Alpha, le joli label Alpha, qui doit dater de 2003-2004. Hein, ça commence à remonter.
Et oui. Le temps passe. Le temps est également 2003, passé depuis le mercredi 22 avril, quand vous étiez venu, Sébastien Derain, pour présenter le spectacle qui était déjà au Théâtre de la Croix-Rousse, Didon et Aîné de Henri Purcell, avec déjà Caroline Mutel. Et donc, vous êtes présent aujourd'hui avec nous pour cette émission 118, afin de présenter davantage ce spectacle Monsieur Croche, Impression d'outre-tombe. Je crois que la formulation s'est inspirée du personnage et des écrits de Claude Debussy, avec de la musique de Debussy, Desfaya, je crois aussi.
Beaucoup, beaucoup. Rameau, la musique est très vaste. En fait, c'est une petite histoire de la musique pour faire peur aux enfants, entre guillemets, hein, c'est dit un peu ironiquement, au travers du lien privilégié qui unissait Claude Debussy à sa fille, unique chouchou. Et c'est aussi une manière d'aborder le thème de la perte et de la transmission. Tout ça est mis en scène par Caroline Mutel, Sébastien Derain à la musique, et puis il y a un travail d'image, de belle scénographie numérique, d'art numérique, avec David Alexandre Chanel et le groupe Théorise.
Voilà, donc le groupe, le studio Théorise est un studio numérique lyonnais, villeurbanais, enfin ils sont installés au Pôle Pixel. Voilà, ils sont formidables, très 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 forts dans la gestion des nouvelles technologies.
Et ils ne sont pas envahissants, contrairement à parfois d'autres mélanges de genres et artistiques.
Oui, mais c'est parfois une question qu'on nous a posée. Monsieur Croche n'est pas un spectacle d'art numérique.
Non,
c'est
pas du tout.
C'est un spectacle de théâtre musical qui invite les arts numériques à trouver leur lettre de noblesse. Je sais que les arts numériques ont toujours cette question de dire, d'un peu de revendiquer, d'appartenir au monde des arts et tout ça. Voilà. Mm-hmm. Oui, bien sûr, ils sont les bienvenus.
Alors, et ça marche.
Et comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Comment
On peut pas le dire.
Gérald indique certaines choses. Je sais pas.
La scénographie dirons-nous un salon. Il y a un jeu sur le rideau, il y a un jeu sur la scène elle-même au départ. Et puis on a un salon 19e. C'est très 19e, le 19e fantomatique. C'est le 19e spirit de Victor Hugo, des tables qui tournent, de la fumée, des trucages, des débuts de la photographie, tout ça. C'est un 19e qui sent un peu la naphtaline. Et le fantôme, avec un cadre géant qui va servir de projection, entre autres, d'art numérique, mais on va sortir évidemment du cadre. Hein. Et ça va on va penser parfois. Moi, j'ai pensé aux 7 boules de cristal de Hergé, parce qu'à un moment, on a des choses qui se passent, justement, avec les possibilités de l'art numérique, des fragmentations visuelles, des choses bizarres qui se baladent un peu partout. Ça, c'est bien. Et c'est toujours, ça vient toujours à point nommé dans le spectacle. C'est pas du tout ni redondant, ni. C'est vraiment inscrit dans la dramaturgie et ça met en relief ce théâtre musical.
Oui. Et qui est sur scène alors? Vous-même?
Alors, disons que sont sur scène les instrumentistes, moi-même, et puis Caroline. qui donc met en scène, mais chante et campe le personnage un peu clé de l'histoire de Monsieur Croche, enfin pas de Monsieur Croche, mais l'histoire qui est racontée autour de Monsieur Croche.
On a dit qui c'était Monsieur Croche,
je crois. Mais qui c'est Monsieur Croche?
On n'a même pas indiqué ça, j'ai dit un personnage et les écrits de Claude Debussy, c'est-à-dire...
Donc Monsieur Croche, c'est un avatar, c'est l'avatar littéraire de Claude Debussy, c'est-à-dire que Claude Debussy était un immense compositeur et en même temps quelqu'un de très véhément à Paris à la fin du 19e siècle. Il était à la fois passionné et mécontent de ce qui se passait musicalement et culturellement à l'époque. Alors parfois c'est rigolo parce que on peut se retrouver encore aujourd'hui sur des choses qui nous choquent ou qui nous plaisent très fortement. Et donc, pour passer tous ces messages, il invente ce monsieur Croche qui pourrait ressembler à un vieux monsieur tout rabougri, qui est gronchon et qui râle et qui peut dire des choses à la fois très désagréables et très rigolotes. Voilà. Donc, monsieur Croche, chez nous, c'est plutôt un fantôme. Il est là, mais il n'est pas là. Il règne dans ce salon.
Oui, il apparaît sous une forme qu'on ne dévoilera pas. Il n'est pas trop rassis, ni grognon. Il peut être drôle, d'ailleurs. Oui. Il est très caustique. Et puis, il adore la musique, surtout. Donc, on essaie de le charmer, en fait, c'est ça. Hein. Les sortes de musiciens fantomatiques qui sont là font tout pour charmer ce...
Oui.
Il est caractériel ou un peu capricieux, on va dire.
C'est-à-dire que, donc, on avait une des commandes, on pourrait dire contraintes, un petit peu dans... Enfin, contraintes, c'est pas le bon mot. Pour ce spectacle, c'était de le rendre accessible aux enfants, au jeune public. Et Monsieur Croche est un texte magnifique, mais c'est un texte d'adulte mélomane. Mmh. Donc, si vous êtes musicien, vous pouvez vous retrouver et puis rigoler avec ce qu'écrit Claude Debussy. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, nous, notre idée, c'était de réinscrire... à quoi sert cette musique? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile socialement? Est-ce que c'est distrayant? Est-ce que c'est pour le plaisir? Qui sera finalement une des lignes principales de notre discours. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de retenir à travers une histoire de la musique, une traversée musicale de plusieurs siècles, de dire que la musique, ça sert à se retrouver, à vivre ensemble et à... Oui. On se retrouvait.
On commence avec le baroque, c'est pour ça qu'on écoutait la première chanson au début de l'émission, qui était extrait que les gens ont reconnu, c'est un tube hein, du film Tous les matins du monde, Jordi Savall. Voilà, et on part de ça et on arrive à la modernité de Debussy, parce que Debussy incarne une forme de modernité, mais en même temps tournée vers le passé.
Ah bah, c'est-à-dire que, oui, c'était un grand moderne, Debussy. Si à un moment il n'aime plus Wagner, c'est parce que Wagner épuise le système finalement harmonique d'une certaine manière, et Debussy veut s'échapper de ça, alors sans aller dans ce qui va être le sériel et tout ça. Mais pour se retrouver et se renouveler finalement, il dit qu'on s'est égaré au 19e siècle musicalement dans la technique de composition, et il renvoie tout le monde à l'élégance, la transparence du style français au 18e siècle. Et les plus grands défenseurs de ça, donc, ce sont les compositeurs comme François Couperin, qui était un claveciniste le claveciniste français, l'extrême du langage de clavecin, c'est-à-dire beaucoup de petites choses, c'est comme une petite boîte à musique, très ciselée, très détaillée. Et Jean-Philippe Rameau, qui était un grand théoricien, le premier théoricien de la musique en France, avec une conception très harmonique, des formes très 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 vastes, et toujours, en même temps, toujours cette forme de transparence et d'élégance.
Rameau est-il le compositeur de Frère Jacques ?
Ah, alors, disons que ça, c'est une polémique qui, à partir du moment où elle existe, elle nous suffit à l'utiliser. Sylvie Bouissou, qui est une chercheuse très... très reconnu sur Rameau, a lancé cette piste il y a 3-4 ans maintenant.
C'est apparu dans un documentaire sur Arte.
Oui, oui, oui.
Il y était question.
C'est-à-dire, en fait, on a retrouvé un cahier de canons de Rameau avec une mention au sein de 34 canons de Rameau de Frère Jacques. Voilà. Donc est-ce qu'on lui rend la paternité ou est-ce que juste il a écrit un canon en 3-4 minutes comme ça sur...
Ou il l'a piqué à quelqu'un d'autre qui est resté anonyme.
Oui, disons que c'est compliqué avec Frère Jacques, c'est qu'il y a des textes allemands, il y a des textes italiens, voilà.
Donc, c'est pire que Cendrillon, c'est pire que l'histoire de Cendrillon.
Mais voilà, il a sa place.
Nous évoquons différents noms, Rameau, Couperin, tout à l'heure j'ai lancé Defaya, on évoque bien entendu Debussy. Mm-hmm. Comment s'est-elle opérée cette sélection de ces différents morceaux qui viennent, Gérald, ça arrive de manière naturelle, c'est ça?
Ce qui est bien dans cette scénographie, de cette courte histoire de la musique, mais très synthétique et très concise, on va dire, de Baroque jusqu'à Debussy, c'est qu'on joue sur la scène Cour-Jardin et qu'on passe de la musique ancienne avec des instruments d'époque, justement, de l'ensemble des nouveaux caractères, avec le clavecin. D'ailleurs, Sébastien Desrain est à la fois claveciniste et chef d'orchestre. On le voit, d'ailleurs, il est souvent la main. On se demande comment il arrive à faire tout ça. Donc, il y a les instruments d'époque prennent place. Et puis, à un moment dans le spectacle, c'est peut-être au milieu, d'ailleurs, la scène va basculer du côté modernité, on passe du clavecin au piano, et là, on va aller du côté de Debussy, et en passant par Mozart, Schubert, tous les grands classiques, Beethoven, et avec toujours ce monsieur Croche qui est là.
Je lançais cette question, donc la sélection, c'est vos goûts?
Alors,
à vous.
Oui, j'imagine que les goûts interviennent au départ. Ensuite, il y a la connaissance du répertoire qui peut être aussi une limite assez immédiate. Et puis, évidemment, dans le processus de création, l'histoire est une écriture de Caroline. C'est une histoire qu'elle a pensée comme but d'utiliser les écrits de Monsieur Croche, c'est-à-dire cette espèce de verve, d'accent un peu, on disait sarcastique par moments, comique, d'utiliser le maximum et de l'inscrire dans son histoire à elle. Après, moi, ma mission, c'est autant que possible de trouver la musique qui va coller au bon moment à la situation. Alors, ça ne veut pas forcément dire que quand c'est triste, je dois avoir une musique triste, parce que ça, après, ça fait un peu... ça ne marche plus au bout d'un moment. Mais disons qu'il y a une chose de rythme qui est quand même un peu délicate à réaliser, et ça prend le temps des répétitions. Je sais que parfois on arrive au bout des spectacles et on a toujours des doutes sur des choix musicaux. Ça a été le cas pour un de nos derniers spectacles. Et puis je suis assez content en fait de la playlist de Monsieur Croche. Je trouve que la musique est, on a vraiment la crème de chaque extrait.
Les tubes, n'ayons pas peur des mots, ce sont que des tubes.
Il y a beaucoup de tubes, effectivement.
Bah, tant mieux si c'est une histoire de la musique.
Si ce sont des tubes, c'est que ce sont des...
Il y a de belles pages.
De très bonnes raisons.
Vous qualifiez tout à l'heure Debussy, vous disiez qu'il râlait contre son époque, ou je ne sais plus quel mot vous employez. Là, j'ai un PS dans une des chroniques qu'il fait, donc là, c'est le nom de Claude Debussy, ce n'est pas Monsieur Croche, mais j'essaierai de retrouver d'autres pages dans ce livre publié chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. PS pour une chronique, est-ce que j'ai même la date sous les yeux de cette chronique, dans la Revue Blanche, le 1er juillet 1901, la Société des Concerts du Conservatoire eut l'occasion dernièrement de nommer Monsieur André Messager son chef d'orchestre. Naturellement, elle la manqua. Les abonnés de ce music-hall pour cerveaux affaiblis pourront continuer leur sommeil. Moi, je trouve ça super quand même, ça m'amuse bien, mais il est quand même dur, Debussy.
Ah, il était horrible.
Ouais, c'est assez odieux. De la musique de Debussy, il y en a, oui.
Oui,
réactionnaire peut-être, non. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un morceau qui intervient dans le spectacle peut-être, Gollywog's Cakewalk.
Ouais,
interprété par Peter Topperxer, un petit CD que j'ai ramené de Prague il y a très très longtemps, Jazz Inspired Piano Music, Debussy, Satie, Auric, Gershwin, Lindemith, Copland, Schulhoff.
Mais alors attention, c'est quelle version? C'est celle pour piano ou orchestre?
C'est piano.
Piano. C'est pour piano, très dynamique, mais ça a été orchestré, mais d'ailleurs par lui-même ou par Caplet?
Par Caplet, absolument.
Et donc ce n'est pas...
Mais voilà, je crois qu'il y a eu un œil.
Dans le spectacle, vous, ce que vous mettez, c'est...
Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, parce qu'on n'a pas... Les orchestrations, souvent, des pièces de piano sont faites pour des grandes formations. Nous, là, on est 7 instruments, donc on observe ce qu'ont fait des compositeurs... qui savent faire techniciens de l'orchestration, comme Caplet, et puis on se l'approprie. Donc voilà, nous, on a tout un travail d'orchestration qui se fait très pragmatiquement, en fait.
Mais donc là, ce que nous allons entendre, c'est dans le spectacle?
Ils l'ont réorchestré à 6 avec hautbois, clarinette, violon, violoncelle.
Ah oui, d'accord, je veux dire, le morceau
d'ailleurs,
lui-même.
C'est très bien, c'est un très bon moment du spectacle, c'est un de mes préférés d'ailleurs, donc, parce qu'il y a un bon travail numérique aussi, et une belle alliance là, c'est un des moments forts, je trouve.
Donc la version, là, ce que nous allons écouter là, juste maintenant, c'est non piano. C'est pas dans le spectacle, voilà, c'est pour
piano seul, hein, c'est juste pour se remettre dans le bain de la mélodie.
Ça fait super, Gérald.
À l'origine, c'est donc une pièce pour Children's Corner, voilà. Donc pour les enfants, entre guillemets, qui est donc un recueil d'air de piano, et voilà, Caplet est passé derrière pour en faire une grande forme. Et nous, on fait quelque chose à mi-chemin.
Donc, auditeurs, cette version que nous allons entendre, si vous voulez voir ce que ça donne sur scène, eh ben, il faut monter à la Croix-Rousse. Le C13 y va, je crois, non?
Oui,
le
il y avait parfois des
métro à pied. Hein. On peut même s'y rendre à pied.
C'est pas si loin que ça, on
peut
que c'est loin.
On peut descendre peut-être plutôt, non? Parce que monter, ça grimpe.
Peut descendre.
Il reste encore ce mercredi 11 janvier, 19h30, également jeudi 12, demain, vendredi 13. Ben voilà, si vous souhaitez conjurer le mauvais sort, allez donc voir ce spectacle. Samedi encore, et dimanche, horaire un peu différent, ce sera 15h et non plus à 19h30. Redis-moi ce qu'on va entendre précisément. Gollywog.
Children's Corner.
Gollywog.
Gollywogs. Cakewalk.
Ce n'est pas donc cette version que nous entendons, enfin que vous entendez, que vous entendrez, auditeurs, si vous allez.
Et encore mieux celle que vous entendrez, bien sûr.
La Croix-Rousse.
Il y aura 6 instrumentistes.
Monsieur Croche, Impression d'Outre-Tombe, un spectacle écrit donc par Caroline Mutel avec des musiciens, une direction musicale assurée par Sébastien Desrain, qui est avec nous encore pendant un quart d'heure, un gros quart d'heure pour parler donc de ce spectacle, Gérald.
Un spectacle d'une heure, et j'avais oublié de préciser, c'est important, vous pouvez venir un peu avant ou rester après le spectacle. Il y aura un bord de scène le jeudi 12 janvier à l'issue de la représentation. Bord de scène, c'est une rencontre avec les artistes, oui, quels qu'ils soient. Et il y a aussi une exposition d'affiches que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs hier soir. Quand on arrive un peu avant, on a le temps de la voir. Et des affiches très réussies du spectacle qui ont été confiées par le théâtre, je crois, l'initiative de la Croix-Rousse, aux étudiants de première année design graphique de l'école Presqu'île. C'est pas la première tentative qu'ils font, ils avaient déjà fait ça autour de 2 autres spectacles, je crois, et c'est très réussi parce qu'on a au moins 25-20 affiches différentes autour de ce spectacle, et tout ont un sens, tout parle. C'est un très beau travail et très belle collaboration.
C'est assez étonnant.
Voilà, ça fait une très belle expo à voir aussi, en plus.
dans la petite présentation que l'excellent théâtre de la Croix-Rousse fait également par ses flyers. Non, c'est vraiment pas du tout de la flagornerie. Moi, j'aime bien ces petits papiers. Je n'ai pas la même chose pour les Célestins, le TNP ou je ne sais quoi. Là, c'est très très bien. Ça marche par deux mois. Là, c'est donc pour janvier-février. Eh bien, il y a une petite phrase que j'extrais. Les nouveaux caractères réunissent six instrumentistes, une soprano et deux artistes d'art numérique pour ce voyage inédit où Rameau, Ravel et Defaya croisent Hugo, Verlaine, Van Gogh ou Magritte, de quoi éveiller et rafraîchir notre regard. Alors attention, regard, c'est de la musique où on voit, ouais, Gérald, toi tu...
C'est les deux, oui. Et on a aussi du Vermeer aussi au début.
Mais alors là, ce sont des
choses. Du Watteau aussi. Et de la poésie, il y a de la poésie.
Voilà, bah, Hugo et Verlaine, c'est a priori musicien non.
Oui, mais les poésies de Verlaine ont été mises en musique par Monsieur Debussy. Notamment.
Et Monsieur Léo Ferré.
Voilà, donc on n'est pas allé jusque là.
Donc il y a d'un.
Oui, voilà, on se sert. C'est-à-dire que une histoire de la musique, mais en fait, on aurait pu dire une histoire de l'art. Moi, je sais que dans mon parcours d'instrumentiste, pendant longtemps, j'ai manqué d'un regard sur que se passait-il au moment de tel ou tel répertoire. Des confusions, je suis catastrophé a posteriori, mais je trouve que c'est important pour notamment pour le jeune public et puis même pour les grands de remettre les choses les unes en face des autres, quoi. Rameau, c'est pas les Trois Mousquetaires, voilà. Claude Debussy, c'est pas la Révolution française, quoi.
Et puis c'est aussi cautionner, le mot est pas très beau, mais c'est cautionner là, toutes ces belles théories des correspondances artistiques de Baudelaire et de tout ça, quoi. Et de toutes les théories synesthésiques sur le les complémentarités artistiques jusqu'à Kandinsky et Paul Klee sur les parallèles entre les gammes chromatiques, à la fois en musique en couleur, etc. Donc ça suit toute l'histoire. Les arts sont toujours complémentaires les uns des autres et se nourrissent les uns les autres.
Absolument, et la synesthésie, c'est une chose qui est, sans aller jusqu'à l'aspect hyper scientifique, qui est quand même une chose touchante.
Une petite définition quand même.
La synesthésie, oui. C'est des correspondances entre une évocation d'un sentiment, une couleur. Pourquoi, quand je vous fais sentir quelque chose, vous pensez à la couleur bleue ou à la couleur rouge?
C'est le goût, l'odorat, tout est mélangé. Ouais,
je vous remercie, hein, je savais parfaitement ce que c'était, mais comme ça, je voulais seulement un peu rafraîchir ma mémoire. Art numérique.
L'œil écoute. Est-ce
qu'on pourrait avoir un exemple
regarde.
Un exemple, à défaut de parler de tout le spectacle, un exemple d'intervention de ces arts numériques. Je crois, par exemple, puisqu'on parle de tableaux, il y a un tableau qui apparaît beaucoup sur le site, également ici. C'est la, je sais plus lequel.
La nuit étoilée de Van Gogh.
Voilà. Oui. Nuit étoilée, oui. Ben, en fait,
donc il est projeté, c'est ça?
Enfin. Oui, il est en partie projeté, mais enfin, il n'est pas projeté on/off. Il y a un petit travail d'apparition,
mise en scène, oui,
qui s'inscrit dans l'histoire. La nuit étoilée fonctionne effectivement très très bien, mais parce que c'est un des tableaux les plus colorés qui soit, donc il y a un rendu visuel qui est très très fort. Le tableau est déjà exceptionnel en soi.
Et donc là, le numérique, alors qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'animation?
On va pas tout raconter, hein.
Un élément, Gérald.
C'est pas de l'animation au sens.
Une sorte de morphing.
Voilà, c'est plutôt entre ce qu'on appelle le mapping, voilà. Le morphing. Il y a des choses de transformation qui se font plus ou moins visuellement, plus ou moins. Plus ou moins franchement ou pas. On constate une transformation. Voilà, c'est un travail. Encore une fois, c'est pas un travail total d'art numérique. Le numérique n'inonde pas le plateau au sens, par exemple, d'Adrien Mondo. Moi, j'adore ces spectacles de boîte numérique, mais là, on est vraiment dans un autre, dans une autre histoire, une autre démarche.
Un peu pixel. Parce que c'est complémentaire.
Voilà, on peut dévoiler un tout petit peu aussi le travail des numériques qui est, notre Monsieur Croche est un fantôme, voilà, et le numérique va dans ce sens-là d'ailleurs, un être un peu dématérialisé.
En fait, il est l'actualité de nos kaléidoscopes, c'est notre kaléidoscope et nos lanternes magiques de 2017, on va dire. Ah bon. Et là, on se rattache au 19e, toute la préhistoire du cinéma, du pré-cinéma.
On écoute encore peut-être quelque chose, je ne sais pas, puisque oui. Manifestement les mots nous manquent.
Ah ben, on va écouter Tube de The Tube, quand même. Alors ça vient de la Casa Mila de Barcelone, musique Art Nouveau, avec l'inévitable Clair de Lune, donc c'est joué au piano par Cristina Arianio.
Oui, c'est du Debussy, c'est donc...
Musique Art Nouveau.
Une pièce de piano que, là encore, on ne joue pas au piano pur et dur. On se sert un peu de tous nos amis musiciens pour lui rendre...
Ça marche très bien. Le violon marche très bien. Ouais. Ce que j'ai dit au violoniste hier. Ouais.
Oui, c'est joli, ça crée un éclairage.
Peut-être avant donc ce moment de poésie qui va être d'écouter du Debussy, en termes de statistiques, il y a combien de pourcentage de morceaux de Debussy par rapport à Rameau ou Defaya? Il y en a quoi? Alors, 50%, 60%, 10%
de Defaya? Defaya, le traitement de Defaya finalement est assez...
Manuel, un compositeur espagnol.
Oui, mais bon. Qui était dans les milieux parisiens, qui était en fait, paradoxalement, Manuel Defaya, c'est un peu quand on a pensé au projet Monsieur Croche, l'œuvre de Defaya avec le renouveau du clavecin au XXe siècle s'est imposée assez rapidement. Et puis, dans la construction, dans la création même du spectacle, s'est fait un petit peu effacer par l'importance de la musique française de Debussy. Donc on a du Defaya au démarrage, et puis on a pas mal de Debussy. Alors le pourcentage de Debussy, difficile de dire. J'ai une sorte de playlist avec 35 extraits.
L'importance, il y a quand même plus de Debussy que des autres.
40-60, je dirais.
C'est-à-dire qu'il y a une partie baroque, pure et dure, c'est-à-dire jusqu'à
Bach-Rameau.
Ouais, Bach-Rameau. Une partie classique autour de la charnière révolution début 19e. Et puis une partie Debussy. Donc je dirais 40 baroques, 20 classiques et 40 Debussy. Mmh.
Bon. Il y a un truc qui manque, mais non, bon, si on n'aime pas. Il paraît que Monsieur Croche n'aime pas trop le chant d'opéra. On appelle. J'ai oublié la formule. Et d'ailleurs, il y en a assez peu, mais c'est bien quand il y en a. Mais
il y a assez peu de.
Vers d'opéra.
Non, autre chose. Ah oui, d'accord.
Jusqu'à un moment, Monsieur Croche dit ah non, c'est Rossini, je crois, il n'aime pas trop.
Oui, non, Rossini, il n'aime pas.
Il y a la Reine de la Nuit quand même.
Oui, dans c'est, les très fugaces, hein, c'est très oui, fugace. Voilà. Mais disons que, oui, concernant Debussy, c'est difficile de se lancer dans l'opéra. Il y a donc plutôt des mélodies.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas. C'est quand même fabuleux quand ça commence. Je ne sais plus où mes chiens m'ont mené, c'est ça, je suis perdu. Le tout début de Pélas et Mélisande. Oui. Claude Debussy, 1902, je crois. Avril. Gérald, redonne-nous précisément ce qu'on va entendre.
Alors, Claire de Lune, hein, Claire de L'Inévitable, Lune. Par Christina Ariagno, au piano. Thank you.
à nouveau, auditeur, ce que vous écoutez à l'instant ne sera pas tel quel dans le spectacle, puisqu'il n'a pas de piano sur scène.
Hein, c'est mais encore mieux, il y a un piano. On passe du clavecin au piano, c'est ça qui est vachement intéressant. En termes de mélomanie, on va dire. Hein, de,
nous parlons de
subtilité d'écoute.
Monsieur Croche, impression d'outre-tombe, donné encore jusqu'au dimanche 15 janvier, ce sera 15h ce dimanche, et sinon c'est à 19h30 en soirée. Et sinon, un peu plus tard, février, mars, avril, alors, Sébastien Desrains, d'autres projets ?
Oui, oui, absolument. On a évoqué le Didon et la bande dessinée que Didier a 2 ans au théâtre et qu'on reprend donc la semaine prochaine après Croche.
À Lyon même, chouette.
Non,
ah
pas
non,
à Lyon
pas
même.
À Lyon.
Il faudra venir à Avignon.
Avignon, ah oui, j'avais lu ça.
Très loin. Un peu plus loin. Voilà. On enchaîne dans la foulée, en fait, avec une énorme production pour nous, le couronnement de Poppée avec l'Opéra de Lyon.
Que vous faites en délocalisé à Villeurbanne, c'est ça ?
Alors, on le fait d'abord à Vichy. 3 soirs à l'Opéra de Vichy, puis 3 soirs au TNP à Villeurbanne, dans le cadre du festival Mémoire de l'Opéra.
Est-ce révéler la fin que de dire, je crois, Sénèque finit par...
Ah, ça finit mal pour Sénèque.
Voilà. Oui. Et il me semble, dans une mise en scène, je crois, à donner à l'Opéra de Lyon, il est là peut-être pas autant que les Boréades ou l'Orfeo. Il
me semble que c'était à la même époque, mais c'est pas cette mise en scène-là.
Non, voilà, c'est ça. Ou alors c'était peut-être une autre... À Paris, je crois, il se tire un coup de feu. Bim,
Ah, ben, un moment, oui, Sénèque, on lui donne l'ordre de...
Vous êtes en train de répéter, alors, actuellement?
Non, pas déjà, mais bientôt. Dans 2 semaines à peu près.
Et alors vous redoutez ou au contraire vous maîtrisez bien? C'est votre...
Je connais cette... oui, c'est un bel opéra, le couronnement. C'est vraiment le...
De qui
Monteverdi,
non.
L'Incoronazione di Poppea. Voilà. De Monsieur Monteverdi. Donc c'est un opéra 17e, 1652. C'est un opéra où il y a beaucoup de rôles solistes, beaucoup de chanteurs et un énorme continuo pour accompagner ces gens-là. Donc le continuo, les instruments de basse qui improvisent pour mettre en valeur le chant.
Et alors, voilà, c'est très bien, vous nous avez déjà dit que, alors que la saison, la programmation n'est pas encore arrivée, qu'à l'auditorium l'année prochaine,
ah oui,
saison
voilà.
17-18,
un Messie
de Handel.
Avec Ambronay,
on a un scoop auditeur au mois de janvier, là, le 11 janvier, on sait déjà ce qu'il y aura en 2018, ça, ce sera...
Ce sera 22 décembre.
Ah, de cette année, 2017 ouais. Bon, c'est très bien, donc voilà. On est déjà prêt.
Oui, absolument. Et puis voilà, il y a un petit peu de Fairy Queen encore, Fairy Queen de Purcell, et ce sera un projet repris à Clermont-Ferrand, et qui sera surtout notre prochaine actualité discographique.
Ah, voilà. Gérald, trouvé partout dans les bons bacs, les bonnes librairies musicales.
A priori.
Style musical âme.
J'espère.
Également numérique, peut-être.
Ah, musical âme. Monsieur Croche,
j'en sors. Musical âme, je suis allé chercher un
Monsieur Croche.
Les suites. Non, je l'avais déjà, Monsieur Croche. Je suis allé chercher un livre sur les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, donné hier à l'auditorium. Il y a encore un peu de Bach et de Mahler qui va arriver à l'auditorium. Pourquoi est-ce que je les associe? Parce que j'ai fait une petite entrée sur le blog de Spectaculaire, pour annoncer qu'il y a beaucoup de Bach et... Comment j'ai formulé ça? C'était très très mauvais, je crois. Beaucoup de Bach, quel malheur. Enfin, je ne sais plus très bien. Mais...
Ah, de malheur, oui.
Non, enfin, bref. Et c'est... Il y a la symphonie numéro 3 qui va arriver au mois de février. La symphonie numéro 7 a été donnée la semaine dernière. C'est bien l'auditorium, il y a de bonnes choses. Et là, nous évoquons tout à l'heure hors antenne, même quand ils invitent, c'est très bien aussi. Ils ont invité dernièrement le Freiburger Orchestra avec le RIAS Kammerchor. Et c'était très très bien pour le Weihnachts Oratorio de Bach.
Dernière publicité? Non. C'est pas une publicité, c'est même pas un appel du pied. On a oublié de préciser que Monsieur Croche, Impression d'outre-tombe, était coproduit par l'Opéra de Lyon.
Oui, absolument,
c'est
il nous
important.
Accompagne avec plus de dates et tout ça, c'est formidable. Absolument, c'est important.
Oui, et puis les musiciens sont là aussi, et puis Caroline Mutel a beaucoup travaillé à l'Opéra en plus.
Oui, alors
fait le lien un petit peu.
Avant l'arrivée de Monsieur Dorny, mais oui, Caroline était...
On n'a pas parlé de sa voix, on n'a pas dit les noms des musiciens, on pourrait peut-être finir avec ça, non?
Ah, mais à 15h, là, il faut vite accélérer.
Il y a
si
une minute,
pas
donc
là.
On va finir avec ça. Spectacle inspiré, hein, c'est précisé, parce qu'on a quelques citations de Monsieur Croche, c'est vrai que c'est un pavé quand même, enfin, 400 pages.
Ah, c'est un gros bouquin, non?
C'est un gros bouquin de critique musicale, littéraire, très pointu.
Ça passe à peine
un peu pour les mélomanes quand même.
350.
Donc c'est très réussi pour l'adaptation. Amenez vos enfants, vous aurez un petit stand de la librairie à Tire-d'Aile pour continuer à former vos enfants, les oreilles de vos enfants à la musique.
C'est important.
Les décrasser un petit peu.
Curiosité.
Surtout à l'heure actuelle de la musique jetable avec, je vais pas citer les noms des gens. et de la. Non, je vais rester poli. Non. Allez, qui passe partout. Bref. Donc, d'après des écrits de Claude Debussy.
Distribution.
Avec une distribution, direction musicale, Sébastien Desrains, ici présent pour la 2e fois, qui reviendra, à mon avis, une 3e fois, dans quelques mois. aux arts numériques, David Alexandre Chanel et son travail, studio. Son collectif, voilà, théorise chez Pixel. Mise en scène, Caroline Mutel, comédienne, chanteuse lyrique, mezzo-soprano, c'est
non, soprano.
Soprano. Assistant mise en scène, Julien Picard, scénographie et costume, Anne-Olivia Lagarde, son Antoine Brio, lumière Fabrice Guilbert, avec Sébastien Derain, clavecin et chef d'orchestre.
Ouais.
Caroline Mutel, chant, David Shiver ou Shivers, violon, Frédéric Baldassare, violoncelle, Emmanuel Laporte, hautbois, Coralie Ordulu ou Ordulu, clarinette, Alice Zimanski, ça me dit quelque chose, ça c'est la même famille, flûte, et Julien Picard, voix. Alors Julien Picard, j'imagine que c'est la voix de Monsieur Croche.
Et voilà, absolument.
Qu'on ne voit pas sur scène.
Ben non.
On ne le verra jamais.
Ben vous l'avez vu hier soir, mais là c'est...
Eh ben oui. Voilà, production Les Nouveaux Caractères, coproduction Théâtre de la Croix-Rousse, Opéra de Lyon. On va peut-être pas... On va mentionner les mécènes pour une fois. Allez. Avec le soutien de la Ville de Lyon, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADAMI, les subsistances pour la résidence de création et avec la participation artistique de l'ENSAT. Durée une heure, à partir de 8 ans, mais on peut descendre un petit peu en dessous. Voilà, l'exposition des affiches, et c'est à voir, à écouter.
Jusqu'à ce dimanche. 15 janvier.
Et il y a déjà pas mal de scolaires qui sont venus, qui vont revenir encore.
Nous n'avons pas tout dit, mais le générique de fin est en train d'arriver. Et donc, en fait, c'est fait exprès, auditeur. Les émissions sont parfaitement préparées. Il est fait exprès que nous n'ayons pas tout dit pour que nous vous donnions envie de vous jeter, de vous précipiter au théâtre de la Croix-Rousse. Ce spectacle, moi aussi, je crois que je vais y aller. Je l'ai manqué, mais j'irai certainement. Grand debussiste que je me veux. C'est très bien. Donc, allez-y, courez-y. Si vous avez manqué des informations, rendez-vous sur le blog où vous pourrez trouver notamment cet excellent article qui s'intitule « Que du bonheur, bac et malheur à l'auditorium ». Voilà, j'ai retrouvé l'entrée. Vous pourrez également réécouter l'émission 63 et puis tout un tas de choses.
Voilà. Gérald, la semaine prochaine, un plasticien dans les tuyaux.
Peut-être.
Et une diffusion pour...
On va voir.
Pour une première fois, on va faire un différé. Pour une actualité, on sera plutôt sur le jazz la semaine prochaine.
Isa, foot, l'Olympique Lyonnais, sur l'extérieur, cette fin de semaine. Non, ouais, extérieur, je crois. Tu sais pas, moi non plus. Un rappeur à venir un de ces jours. Non, pas forcément.
Peut-être brave, mais non.
Peut-être brave. Il est normand, c'est ça, je crois. Ouais. Il est à vrai, le pauvre.
Encore.
Bon, pas tout de suite.
C'est l'éclectisme de spectaculaire.
A priori, pas de c'est bus difficile. Des Canus. Néanmoins, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Les bandes continues sont toujours très bonnes. Et puis voilà, sortez et couvrez-vous aussi, il fait chaud quand même. Donc en fait, faites de tout. Écoutez de la musique numérique également, je pense. Voilà, c'est ça que c'est cette chose à laquelle je pensais quand on a parlé de musique à l'âme. Est-ce que la version de l'album à venir sera aussi disponible sur plateforme numérique? Non, ce sera que album CD.
Ce sera principalement dans les bacs. Label Glossa.
Mais il n'y aura pas d'enregistrement de choses numériques? Auditeurs, restez.
Je ne sais pas.
Restez connectés pour savoir ce qu'il en sera.
On va les CD maintenant.
La politique de Glossa, de ce point de vue-là.
On arrive à la fin du générique. Il y a l'avion de Cora.
Cloud.
Bon, auditeurs, bon après-midi. Restez à l'écoute de Radio Canu et à très bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Et merci.